5h sur Europe 1, bon réveil.
Grâce à ce plafond pour les détenteurs de la carte avantage, c'est un quart des billets qui va être concerné par des prix réduits.
La SNCF aurait-elle appris de certaines critiques récurrentes? Les tarifs seront plafonnés quand on a la nouvelle carte de réduction. Faut-il vacciner aussi les ados? Et si oui, à quel moment faudra-t-il élargir la campagne vaccinale? La Haute Autorité de Santé et le Conseil de Défense se penchent sur la question. Et puis les Républicains, toujours écartelés entre le RN et les marcheurs. Il nous faut vite un candidat à la présidentielle pour resserrer les rangs, disent certains cadres.
À suivre les sports, notre pressing du matin, et puis nous irons dans l'Oise pour les doigts dans l'assiette. Bon réveil, bienvenue.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
À la SNCF, révolution rime avec plafond. L'entreprise va désormais garantir des prix plafonnés pour les détenteurs de sa nouvelle carte de réduction. Ce sera 39, 59 ou 79 euros selon la longueur du trajet en question. Aurélien Fleureau, il s'agit de s'adapter en fait au comportement des clients.
Oui, les dirigeants de la SNCF ont voulu décoller le sparadrap du TGV cher et désormais il sera possible de voyager en connaissant le prix avant de réserver, en tout cas en seconde classe et pour les détenteurs de la carte avantage. Alain Krakowicz, directeur de Voyage SNCF.
Quelle que soit la période de l'année, le 13 juillet, la veille de l'Ascension, quel que soit le moment où vous réservez, vous avez l'assurance d'avoir ces prix plafonnés. Grâce à ce plafond pour les détenteurs de la carte avantage, c'est un quart des billets qui va être concerné par des prix réduits.
Autre évolution inédite pour la SNCF, ce qui a été mis en place pendant la crise sanitaire sera pérennisé, remboursement ou échange gratuit jusqu'à 3 jours avant le départ. Une bonne nouvelle pour aider à la relance du tourisme, selon Jean-Pierre Masse, président des entreprises du voyage, consulté en amont par la SNCF.
La crise sanitaire a obligé les opérateurs à accepter les échanges jusqu'au dernier moment. Et ça va amener des Français vers le train parce qu'on a la possibilité de changer d'avis, de ne pas être obligé de voyager ou de perdre son billet.
Dernière nouveauté liée à la crise sanitaire, la SNCF va lancer en septembre un forfait annuel télétravail pour ceux qui voyagent 2 à 3 jours par semaine.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Ce ne sont pas eux que l'on retrouve dans les services d'urgence. Et pourtant, dans certains pays, États-Unis, Canada, les adolescents ont commencé à être vaccinés contre le Covid. L'Allemagne va s'y mettre lundi prochain. Quant à la France, elle attend un avis aujourd'hui de la Haute Autorité de Santé, l'agence européenne ayant déjà donné un feu vert.
Victor Dolande, les épidémiologistes poussent pour la vaccination des collégiens et des lycéens.
Oui, ces experts s'appuient sur une étude menée par le laboratoire Pfizer qui démontre une efficacité vaccinale de 100% chez les patients de 12 à 15 ans. Pour le pédiatre Robert Cohen, la vaccination des ados répond à 2 objectifs, leur protection et surtout celle de leur entourage.
Les adolescents sont quasiment aussi porteurs que les jeunes adultes du virus et il y a plusieurs études, dont certaines de l'Institut Pasteur, qui montrent que avoir des adolescents, ça augmente le risque pour vous d'attraper le Covid. Donc on a à la fois pour eux un intérêt individuel et un intérêt collectif pour le reste de la société.
Autrement dit, vacciner les ados limiterait encore un peu plus la circulation du virus. Emmanuel Baron, directeur d'Épicentre, le groupe de recherche et d'épidémiologie de Médecins Sans Frontières, n'est pas opposé à cette vaccination, mais ce n'est pas l'urgence. Il faut avant tout vacciner les personnes fragiles dans le monde entier, selon lui, pour ne pas voir apparaître de nouveaux variants.
Attention, l'exemple de l'Inde doit nous encourager à être extrêmement prudents et à savoir aussi équilibrer un peu les choses en matière de délivrance de vaccins.
Le sujet est loin de faire l'unanimité dans la communauté scientifique. Certains experts réclament même un débat public pour bien peser le pour et le contre de la vaccination des adolescents.
Victor Dolande, spécialiste santé d'Europe. Il est numéro 2 de son parti, mais sa ligne politique semble diverger d'une grande part de ses cadres. Guillaume Pelletier, vice-président des Républicains, affirmait dimanche avoir les mêmes convictions que le maire de Béziers, Robert Ménard, qui est soutenu par le Rassemblement National, et il a justifié des entorses à l'état de droit pour les dossiers de terrorisme. Réunion de groupe politique délicate hier à l'Assemblée. Claudia Bertram.
Les députés LR lavent leur linge sale en famille, de l'expression même de leur chef de groupe Damien Abad, qui recadre explicitement Guillaume Pelletier.
Nous l'avons dit très clairement, c'est un rapprochement que nous ne pouvons pas cautionner ni de près ni de loin. Aucune digue ne doit être franchissable avec le Rassemblement National.
Lors de la réunion de groupe, Guillaume Pelletier a clarifié certains de ses propos, notamment sur la Cour de Sûreté. Pour le moment, pas de sanctions contre le numéro 2 du parti, mais il faudra régler certaines questions, estime le député Philippe Gosselin.
Ça pose la question à court ou moyen terme de la ligne ligne politique d'une part et de celles et ceux qui l'incarnent. Il n'y a pas de précipitation à avoir, il faut garder la tête froide, mais il y a des questions qui sont posées et qu'on ne peut pas nécessairement évacuer.
Après le psychodrame en PACA avec Renaud Muselier et les propos de Guillaume Pelletier dimanche, LR doit éviter l'écartèlement entre le parti d'Emmanuel Macron et le RN. Pour le député et ancien ministre Éric Woerth, il faut accélérer le tempo pour la présidentielle.
Nous devons aller plus vite probablement dans la désignation d'un candidat. Quand il n'y a pas de candidat, il n'y a pas de porte-parole. Quand il n'y a pas de porte-parole, ça devient très très compliqué. Donc il me semble extrêmement temps d'avoir un candidat.
Un processus que certains veulent voir démarrer dès les régionales passées.
Il est 5h06 et face aux insectes, aux nuisibles, utilisons pourquoi pas d'autres insectes. C'est le pari des producteurs de tomates en Bretagne.
Oui, ils élèvent des armées de punaises et de guêpes pour anéantir les mouches qui peuvent décimer les productions. Une solution totalement naturelle, vous l'avez compris, alors que la demande de produits bio augmente constamment. Reportage de Charles Guyard.
J'ai la boîte dans les mains et je vais l'ouvrir et je vais la poser délicatement sur les feuilles du plant de tomate.
Dans la fameuse boîte, une colonie de 250 Macrolophus, autrement dit des punaises, une arme redoutable utilisée par Guillaume Kiergent, producteur de tomates près de Brest.
Et comme ça, les Macrolophus vont tout de suite attaquer les prédateurs dans les 100 mètres carrés qu'il y a autour de nous.
Les prédateurs, ce sont de minuscules mouches blanches qui peuvent proliférer à toute allure et mettre à mal toute une exploitation.
Si on laisse les mouches blanches se développer, c'est qu'à la fin, les fruits ne sont plus commercialisables parce qu'ils sont tout collants. La dernière attaque qu'on a eu ici en 2013. Là, ça a été très compliqué. Hein.
Ce problème de nuisibles, on s'en charge juste à côté, dans la ferme aux insectes de la coopérative Saveol. Ici, on développe une contre-offensive 100% naturelle avec un élevage de punaises, mais aussi de micro-guêpes.
Voilà, c'est ici que la guerre, elle est menée. Et là, on produit à peu près 100 millions d'encarcia par an.
Pierre-Yves Gestin, président de Saveol.
L'idée, c'est qu'il se développe assez rapidement pour justement enrayer finalement les attaques qu'on a de ces fameuses mouches blanches.
Pas question en effet de laisser une toute petite mouche faire trembler le royaume de la tomate grâce à cette collaboration homme-insecte en Bretagne, c'est une guerre propre qui est menée. Ainsi, Guillaume Kiergent n'utilise plus de produits chimiques dans ses 2 hectares de serre.
Merci, la lutte biologique.
Guy Pavas, Charles Guyard, Europe 1.
Le déconfinement culturel. Hier, ici même, nous évoquions les nuits de Fourvière. Ce matin, premier aperçu, toujours à Lyon, de la Biennale de la Danse, événement qui aurait dû avoir lieu en septembre dernier. Pour Europe 1, Jean-Luc Boujon a vu hier soir un spectacle entre hip-hop et théâtre.
Hier soir, la salle affichait complet 170 personnes, jauge Covid maximum. Parmi elles, Catherine, ravie d'avoir pu s'installer de nouveau dans un siège rouge face à une scène.
C'est un grand plaisir que j'attendais impatiemment. Ça m'a énormément manqué.
Sur scène, ils sont 5 danseurs. La pièce qui mêle théâtre et hip-hop s'intitule « Urgence » et parle de l'émancipation des gamins de cité.
Je suis français, né en France, et je ne parle que français.
Et à la fin, c'est l'explosion, visiblement trop longtemps contenue.
Oh là là, ça fait du bien à tout. Et d'être avec tout le monde là, trop bien. C'est le bonheur retrouvé, c'est la joie d'être ensemble.
Moi je suis folle de joie, moi vraiment aujourd'hui. C'était un grand moment pour moi parce que j'étais sevrée pendant très longtemps.
Urgence, une pièce finalement très bien nommée, explique Antoine Colneau, le metteur en scène.
Il y avait urgence à retrouver le public. Et puis il y a urgence peut-être à retrouver aussi le partage. Quand on l'a créée, c'était avant le Covid. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle résonne encore plus fortement.
Une pièce qui résonne et un public qui sera 2 fois plus nombreux à partir du 9 juin. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Autre spectacle qui s'annonce comme un événement, un concert hommage à Johnny Hallyday, prévu le 14 septembre avec Calogero, Pascal Obispo, Patrick Bruel, Gad Elmaleh ou encore Julien Doré. Ce sera à l'Arena de Paris-Bercy, dont l'Esplanade sera même rebaptisée du nom de Johnny.
Un sacré affiche pour rendre hommage à Johnny. Donc ce sera le 14 septembre, si vous voulez noter la date. C'était le journal de François Geffrier. Il est 5h09. Et nous ouvrons la page des sports avec vous, Lénaïque Monnier. Bonjour.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Double actualité aujourd'hui avec l'équipe de France de foot qui entame sa préparation à l'Euro. Mais avant cela, Roland Garros qui s'est terminé bien tard hier soir.
Oui, avec un Novak Djokovic qui a réussi son entrée en matière en battant l'Américain Tennis. C'est vraiment son prénom, Sandgren, en moins de 2 heures. Le numéro 1 mondial, ravi d'avoir joué de nuit. On l'écoute, la traduction est signée un certain Fabrice Santoro.
Honored to be the first men's match night session ever in Roland Garros.
Novak, numéro 1 mondial, se sent honoré. C'est un privilège pour lui de jouer le premier simple du tableau masculin de l'histoire du tournoi la nuit devant cet éclairage qui était particulièrement bon et il a joué un excellent match même si il regrette le fait qu'il n'y ait pas eu de public ce soir.
Novak Djokovic avec Axel Melnuermer, un mondial qui a par ailleurs exprimé son soutien à Naomi Osaka rentrée au Japon. Je la trouve très courageuse, voilà ce qu'il a dit en conférence de presse.
Voilà pour le favori Djoko. Côté français, en revanche, le bilan est plutôt maigre.
Oui, c'est même le pire depuis l'ère moderne, c'est-à-dire depuis 1968. Gaël Monfils et Richard Gasquet sont passés, mais chez les plus jeunes, c'est l'hécatombe. Hugo Gaston, Lucas Pouille sont éliminés. En fait, au deuxième tour, ils ne sont plus que 7 en tout. Aujourd'hui, on suivra Caroline Garcia ou encore Harmony Tan et Enzo Cuoco.
On en vient au football, parce que ça y est, ça commence à sentir l'euro.
France-Galles à Nice ce soir, match très particulier pour le local de l'étape Hugo Lloris, niçois donc, et qui honore en plus sa 100e sélection en tant que capitaine des Bleus.
C'est magnifique en plus que ça puisse se jouer à Nice. Voilà, le hasard fait bien les choses. Lorsque j'ai démarré ma carrière, voilà, le capitanat n'a jamais été un objectif. Voilà, je suis fidèle à moi-même. Je vais continuer à donner le maximum jusqu'à ce que l'histoire en bleu se termine pour moi.
Hugo Lloris avec Cyril de la Morinerie. Ce match est surtout l'occasion de voir évoluer Karim Benzema aux côtés de Griezmann et de Mbappé. Match à suivre sur Europe 1, soirée spéciale entre 20h et 23h30. Et puis ça y est, c'est réglé. La Copa América sera bien disputée au Brésil après les désistements de la Colombie et de l'Argentine pour raisons sanitaires. Coup d'envoi désormais dans 13 petits jours.
Lénaïque Monnier, merci, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Il est 5h11 sur Europe 1 et on va découvrir maintenant le pari gagnant du jour. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Sébastien, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Saint-Cloud et mon pari gagnant sera le 904, la Barillette. Irréprochable dans cette catégorie des handicaps, faisant preuve d'une louable régularité en donnant le meilleur d'elle-même à chacune de ses sorties, cette magnifique jument grise va évoluer cet après-midi sur un parcours où l'an dernier, elle s'était imposée avec la manière. Je la crois donc capable de doubler la mise sur ce tracé. Notez bien, pour Saint-Cloud, réunion 1, dans la 9e course, le numéro 4, la Barillette.
Merci à vous Thierry Léger, on vous retrouve dans 20 minutes pour les pronostics du Quintet. Europe 1. 5h12, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1, installez-vous, on va lire tranquillement les journaux avec toute l'équipe. Ambline, qu'est-ce que vous avez repéré dans la presse ce matin?
Des signaux ignorés, un manque de volonté politique, une absence de protection, d'informations, d'outils, les féminicides se multiplient, les associations pointent du doigt les défaillances.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Sébastien Krebs.
5h13 sur Europe 1, la vaccination des adolescents en question. À partir de 12 ans, l'option déjà en place aux États-Unis est étudiée aujourd'hui par le Conseil de défense. 595 millions d'euros, c'est le montant des réparations que réclame l'État au procès en appel de Bernard Tapie pour escroquerie. L'homme d'affaires est absent du tribunal pour raison de santé. Puis le PS proposera à la gauche un projet et une candidature issue de ses rangs en septembre prochain, annonce le premier secrétaire Olivier Faure. Il évoque implicitement Annie Hidalgo comme étant, dit-il, une chance pour le Parti Socialiste.
Europe 1.
C'est l'heure du pressing du matin avec Ombline Roche et Martin Lange. Nous lisons les journaux tous ensemble chaque matin. On commence par les unes avec d'abord une promesse à la une, la fin des billets de train hors de prix. C'est la une d'aujourd'hui en France qui vous détaille la nouvelle politique tarifaire annoncée par la SNCF. Le train moins cher et la voiture, peu à peu exclue des villes. Le périlleux compte à rebours vers la fin du diesel, c'est le titre du Figaro. Après les mesures prises dans le Grand Paris, la mort programmée du diesel est aussi à la une de l'Est républicain et du Dauphiné libéré avec cette question. Les Français sont-ils prêts à opter pour l'électrique ou l'hybride, et surtout, en ont-ils les moyens? L'économie qui repart, c'est la reprise, se réjouit à la une La Croix. Et Varmatin met en une 10 000 jobs à pourvoir sur la plateforme Un jeune, une solution. Des emplois de saisonniers, principalement le secteur de la restauration, notamment est en recherche sur la Côte d'Azur. Voici les trois histoires qui ont attiré notre attention ce matin. Ambline, on commence par cette recrudescence de féminicide.
Depuis le début de l'année, 48 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Elles étaient 90 en 2020. Un an et demi après le Grenelle contre les violences conjugales, les failles restent béantes, écrit Libération, qui affiche en une et en lettres capitales le titre « Féminicide, la défaillance ». Le Figaro en parle également ce matin. Le point commun de tous ces drames, une volonté de séparation et des femmes qui trouvent la mort chez elles. Selon le collectif féministe Nous Toutes, l'institution n'est pas capable de les protéger. C'était déjà écrit noir sur blanc dans un rapport de l'Inspection générale de la justice fin 2019. Les alertes restent souvent sans réponse. Sur 88 homicides conjugaux définitivement jugés en 2015 et 2016, 2/3 des victimes avaient subi des violences avant d'être tuées. Presque la moitié d'entre elles avaient dénoncé cette violence aux forces de l'ordre et une grande majorité des plaintes avaient été classées sans suite. Selon la présidente de la Fondation des femmes, Anne-Cécile Maillefer, on incite les femmes à porter plainte et elles ne bénéficient ensuite d'aucun suivi. Personne ne prend de nouvelles. Elle plaide pour plus de protection. Le bracelet électronique anti-rapprochement, par exemple, est encore trop peu répandu. 47 étaient actifs début mai, alors qu'un millier sont disponibles. Alors on fait quoi maintenant ? Qu'est-ce qu'on attend ? Le gouvernement, pressé de réagir, a annoncé la création d'un fichier de prévention des violences conjugales. Il recenserait toutes les informations permettant de mieux évaluer le danger. Il serait relié, par exemple, à celui des antécédents judiciaires. Voilà les défaillances et les dysfonctionnements pour lutter contre les violences conjugales, pour mieux protéger les victimes. C'est dans Libération et dans le Figaro.
C'est fou, les choses ne changent pas, malgré
ça n'évolue pas.
La volonté politique affichée, ce Grenelle des femmes qui avait été extrêmement médiatisé et important. On voit que les chiffres sont toujours extrêmement élevés. Voilà, c'est la une de Libération ce matin. Autre sujet, la vraie vie reprend peu à peu, ça vous réjouit. Les terrasses de café qui se remplissent, les magasins, les musées, les cinémas qui rouvrent. Eh ben, ça vous réjouit, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Le confinement a déjà ses nostalgiques. Ils sont à la une de La Provence avec plusieurs témoignages. Alors, il y a Anaïs qui a apprécié ce répit qu'on n'aurait pas soupçonné. Ce calme incroyable dans Marseille. Plus de bruit de moteur, plus d'embouteillage. Y avoir goûté, dit-elle, rend d'autant plus difficile ce retour à la vie normale. Mmh. Idem pour Michel, ce retraité d'Aix-en-Provence, qui l'avoue alors sans complexe. Le confinement ne l'a pas gêné, bien au contraire, on a apprécié cette période, dit-il. Sur la terrasse de notre immeuble à l'apéro, on entendait le chant des oiseaux comme jamais. Alors c'est sûr, quand on est dans ce cadre-là, c'est plus facile que dans un petit studio à Paris.
C'est ça.
Alors, il y a ceux qui se plaignent déjà du bruit des terrasses. À Avignon, des tables trop rapprochées, les rues sont trop bondées. Sylvie, 60 ans, trop anxieuse, n'ose plus sortir. Elle dit que c'est comme avant, mais en pire après le confinement. Alors, il n'y a pas que des retraités qui témoignent dans La Provence. Il y a aussi ce cadre pour qui le télétravail a été une révélation. Il a changé sa façon d'aborder le travail et l'équilibre aussi avec sa vie personnelle. Lui aussi est un nostalgique du confinement. Quant à Pablo, 14 ans, il a adoré le confinement.
Ah bon ?
Plus de temps en famille, pas besoin de se lever aussitôt pour aller au collège. Il avoue avoir rêvé ces 6 derniers mois de voir Emmanuel Macron prendre la parole pour annoncer enfin une nouvelle fermeture des écoles.
Mais les copains alors, c'est
triste tout ça.
Oui.
C'est
ça en fait, c'est une espèce de volonté d'être seul.
Il a profité de ses frères et sœurs, de ses parents. Bon. Les nostalgiques du confinement sont donc à la une de La Provence ce matin. Martin, à vous. Vous n'êtes pas nostalgique du confinement, vous.
Non, pas vraiment. Pas vraiment. Et ce matin, je vais vous parler du cauchemar de tout jeune marié, perdre sa bague de fiançailles. Alors, c'est ce qui est arrivé à ce jeune couple de Britanniques, Vicky et Rebecca. En pleine séance photo pour préparer leur mariage, ils ont fait tomber la bague de Rebecca au fond du plus grand lac d'Angleterre, le lac Windermere. 16 km de long et jusqu'à 66 mètres de profondeur. Autant chercher une aiguille dans un champ entier de bottes de foin. Alors, leur premier réflexe, évidemment, ça a été de se jeter à l'eau. C'est Vicky qui s'y colle, mais dans un lac du nord de l'Angleterre au mois de mai, vous imaginez bien qu'il ne fait pas très chaud. Les deux tourtereaux pensent alors avoir définitivement perdu la bague, mais c'était sans compter sur Angus, un jeune plongeur qui connaît le lac comme sa poche. Il a l'habitude d'y plonger pour récupérer des déchets ou encore des objets tombés à l'eau. Ça tombe très bien. Armé d'une combinaison de néoprène et d'un détecteur de métaux, il se met à la recherche de la bague, malgré une très mauvaise visibilité. Il lui faut une vingtaine de minutes pour repérer une lueur au fond de l'eau. Ce sont les diamants qui se reflète. Angus plonge à quelques mètres de profondeur et récupère l'anneau. Il le ramène à ses propriétaires. Oh, une scène immortalisée par une photo Facebook, reprise par tous les médias britanniques. Le cauchemar de Vicky et Rebecca se termine donc bien. Et pour remercier leur sauveur, ils ont même décidé de l'inviter à leur mariage août prochain.
Bah, c'est la moindre des choses.
Exactement. L'aptéiste retrouve une bague de fiançailles tombée au fond du plus grand lac d'Angleterre. C'est la belle histoire à lire sur le site de West France.
La belle histoire en Angleterre, vous irez la voir donc sur West France. Merci à tous les deux, c'était le pressing du jour. Il est 5h21.
We're a million volts in a pool of light. Electricity in the room tonight. Born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Heart that works from a broken place. That's where the victory's won. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right.
On se met dans l'ambiance de l'Euro sur Europe 1 ce matin. Premier match de l'équipe de France ce soir contre le Pays de Galles. La chanson que vous entendez, We Are The People, c'est l'hymne officiel de l'Euro de football 2020, donc qui débute en 2021 le 11 juin prochain. Premier match de l'équipe de France dans cet Euro, ce sera France-Allemagne le 15 juin. L'hymne avec Bono, Easy Edge, Martin Garrix, We Are The People. Il est 5h24 sur Europe 1 dans un instant. On part dans l'Oise pour les doigts dans l'assiette.
Sébastien Krebs vous informe sur Europe 1.
Il est 5h26 et pour les doigts dans l'assiette, nous sommes dans l'Oise ce matin. Bonjour Luc Smessert.
Bonjour Sébastien.
Merci d'être avec nous ce matin en direct. Vous êtes notre polyculteur éleveur. On vous retrouve régulièrement sur votre exploitation à Roy-Boissy. Comment allez-vous? Qu'est-ce qui vous occupe en ce moment avec ces beaux jours qui reviennent?
Ça va bien. On est très occupé. Ouais. On a beaucoup de vélages. C'est-à-dire que c'est la période des naissances, donc ouais. On a pas mal de petits veaux, on a bien eu cette semaine une dizaine de naissances, donc il y a beaucoup de...
Ah oui, une dizaine en une semaine.
Beaucoup d'attention, et puis c'est surtout avec le retour du beau temps, c'est le début des foins et surtout la récolte de la luzerne.
Alors la luzerne qui alimente ensuite vos bêtes?
C'est ça, la luzerne qui est riche en protéines, qui va éviter d'acheter du soja brésilien, donc... on va donner, nous, 3-4 kilos cet hiver de luzerne à nos vaches. Donc aujourd'hui, on est dans la récolte. Alors pour récolter la luzerne, c'est une plante qui est un peu capricieuse parce que la protéine, elle est détenue dans les feuilles. Donc il faut absolument garder les feuilles entières. Donc on coupe la luzerne, on la met à terre. Il faut vraiment regarder la plage météo pour avoir 4-5 jours de beau temps. Après, on va la retourner, ce qu'on appelle la faner, c'est-à-dire que pour que justement elle puisse sécher. On fait ça le matin et très tôt et vraiment doucement pour garder vraiment toutes ces petites feuilles qu'il y a autour de la tige. Et au bout de 4-5 jours, on l'andaine, on fait des andains pour pouvoir la presser après. Donc tout ça, on le fait aussi juste ce qu'on appelle au moment du point de rosée, c'est-à-dire qu'on fait ça vers 8 heures du matin. Là, dans quelques temps, on fera ça même encore plus tôt le matin, parce qu'il faut vraiment qu'on garde la plante, toute la qualité. Et puis donc, on la presse et on l'enrubane, c'est-à-dire qu'on lui met un voile de plastique autour pour justement stopper la fermentation. On a là un produit qui est excellent, hein, c'est vraiment du... ça a une très très bonne odeur. Et puis, après, il faut aller avec, bien sûr, un télescopique, la charger. On stocke les balles d'enrubanage près du corps de ferme. Et on va pouvoir, là, on en a récolté 80. On va en récolter comme ça, on va la récolter pendant... On fait 4 récoltes dans l'année, donc c'est vraiment... et c'est une plante très, ce qu'on appelle écologique, puisque l'intérêt, c'est qu'elle capte l'azote de l'air, donc on n'a pas besoin d'apporter de l'azote. Et elle a une capacité à résister à la sécheresse, ce qui fait qu'elle a des racines qui peuvent descendre jusqu'à 3-4 mètres, même dans des sols très pauvres, hein, puisque là, nous, on est dans de la craie. Donc, et c'est assez intéressant. Alors, on en a 10 hectares, hein, c'est la diversité ouais. d'assolement. Et puis, ces prochains jours, on nous annonce quelques pluies et quelques orages dans les prochains jours, mais sinon, à partir de milieu de semaine prochaine, on va commencer les foins. Donc là, c'est encore une autre opération, puisque là, c'est tout le stock pour nourrir les animaux cet hiver avec le maïs en silage.
Voilà, donc là, après, il faut tout stocker. Vous stockez combien en tout c'est quoi? C'est une grange entière qui est remplie ensuite pour l'ensemble de l'hiver prochain?
C'est ça, c'est 250 à 300 ballots qui vont être rentrés là dans les prochains jours. Ça prend de la place. Et puis surtout, c'est que c'est indispensable, quoi. On est déjà en train de travailler sur l'hiver prochain. C'est-à-dire que c'est un cycle permanent. Et puis là, avec les premiers, la température, on a vraiment du temps idéal. On a eu un petit peu d'eau et donc ça c'est une très bonne chose. Donc,
oui, il en manquait et là maintenant c'est le soleil, vous allez pouvoir travailler. Écoutez, bon courage parce que c'est évidemment du boulot tôt le matin, donc au point de rosée pour aller cultiver et préparer les foins pour l'hiver prochain. À bientôt Luc Messer dans les doigts dans l'assiette.
C'était la journée mondiale du lait hier, donc avec cette luzerne on va faire un très très bon lait. Et ça va être top pour les nouveaux villages.
Merci à vous, à bientôt sur Europe 1. Il est 5h29, Laurent Cabrol, pour cette journée de mercredi.
Oui, ce sont les grognements d'orages qui vont vous réveiller ce matin peut-être. En tout cas, ces orages éclatent pour l'instant de manière assez discrète, mais dans la journée, ils vont s'amplifier, notamment sur les régions du Nord, même en Ile-de-France, sur le Nord, la Picardie, sur la Champagne-Ardenne, le Centre, qu'a-t-il encore la Normandie, et les régions de l'Est. Ils éclateront un petit peu partout, hein. Peu de régions y échapperont, et nous aurons quand même un retour d'éclaircies dans l'après-midi sur la Bretagne, les Pays de la Loire, ou plus exactement la Loire-Atlantique, restons là, la Loire-Atlantique, la Vendée, le Poitou-Charente et tout le sud-ouest. Voilà, ça ce sont des régions un peu épargnées en deuxième partie de journée, car ce matin, ces régions sont sous les nuages. Et puis partout ailleurs, les orages vont gronder. Les températures maximales, 21 à La Rochelle au meilleur de l'après-midi, 24 à Caen, 24 à Limoges, 25 à Rennes, 26 à Marseille, comme à Lyon et Toulouse, 27 à Paris, pas mal, hein, Clermont-Ferrand, pas mal non plus, et 28 degrés à Lille, la ville la plus chaude aujourd'hui.
Très bien, à tout à l'heure. Merci Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Tout de suite, un nouveau journal sur Europe 1. Bonjour Marion Calais.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 5h30.
On a une faible, en effet, perception du risque et il est donc évidemment très important de pouvoir échanger avec son professionnel de santé.
Les femmes pas suffisamment informées des risques liés à la prise de médicaments pendant la grossesse. Une grande campagne est lancée aujourd'hui. Faut-il ouvrir la vaccination aux adolescents? Question sur la table du Conseil de défense sanitaire ce matin. Aux États-Unis, en 3 semaines, plus de 2,5 millions de jeunes en ont bénéficié. Il y a eu la sélection, il y a eu les retrouvailles à Clairefontaine. Cette fois, c'est le vrai retour pour Karim Benzema sur le terrain. France-Pays de Galles, match de préparation à l'Euro dans moins de 2 semaines.
Une maison sur 10 se construit désormais en bois. La demande explose au point de provoquer une pénurie et une flambée des prix. On va prendre le temps de comprendre pourquoi, juste après le journal avec mon invité, le forestier et consultant Hervé Le Boulaire.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Enceinte, les médicaments, ce n'est pas n'importe comment. Voilà le slogan d'une campagne lancée aujourd'hui par l'Agence nationale du médicament avec ce constat. 7 femmes sur 10 disent manquer d'informations sur la prise de traitement pendant la grossesse.
Et c'est l'occasion de rappeler, hein, Anne Le Gall, que prendre un médicament pendant une grossesse, c'est loin d'être anodin.
Exactement, parce que sur les 800 000 bébés qui naissent chaque année en France, on estime qu'autour d'un millier souffrent de malformations graves dues à la prise de médicaments pendant la grossesse. D'autres sont touchés par des retards de croissance, de l'insuffisance cardiaque, rénale ou de l'hyperactivité. Et cela peut provenir aussi bien d'un anti-inflammatoire aussi banal que l'ibuprofène, très dangereux en fin de grossesse, que de traitements anti-nausées, anti-acné, des sédatifs ou certains traitements de l'épilepsie. Malheureusement, estime Christelle Ratigné-Carbonneil, directrice générale de l'Agence nationale du médicament, ces risques ne sont pas assez connus.
On a plus d'un tiers des femmes qui prennent d'elles-mêmes un médicament, notamment les femmes enceintes de leur premier enfant. Et lorsque l'on s'intéresse plutôt aux femmes enceintes de leur second enfant, on arrive quasiment à une femme sur deux qui prennent un médicament de leur propre initiative. On a une faible, en effet, perception du risque et il est donc évidemment très important de pouvoir échanger avec son professionnel de santé.
Et pas question non plus d'arrêter son traitement sans avis médical, d'où l'importance de parler de son projet de grossesse le plus tôt possible à son médecin. Aujourd'hui, seule la moitié des femmes le font, mais il faudrait que ça devienne un réflexe.
Une précision signée Anne Le Gall pour Europe 1. La vaccination des adolescents, aujourd'hui au menu d'un conseil de défense sanitaire. La Haute Autorité de Santé, elle se prononcera demain, alors que plusieurs pays ont déjà commencé à ouvrir les injections aux enfants dès 12 ans. C'est le cas du Canada et des États-Unis. Reportage à New York d'Alexis Guilleux pour Europe 1.
Depuis trois semaines, plus de 2,5 millions d'adolescents américains ont reçu leur première dose. Comme Sarah, 15 ans, elle sort d'un grand centre de vaccination de Manhattan. Je voulais le faire depuis longtemps. Dès que ça a été autorisé pour les adolescents, j'ai voulu recevoir le vaccin. Tous mes amis ont été vaccinés et je suis dans les dernières. On est tous d'accord pour dire qu'il faut se protéger et que c'est important. Sa mère Yelena l'accompagne. Elle a eu besoin d'un temps de réflexion et s'est beaucoup renseignée avant d'autoriser sa fille à prendre rendez-vous. J'étais un peu inquiète parce que je ne suis pas hyper fan des vaccin, mais je pense que celui-là, contre le Covid, il va nous changer la vie. Un retour à la normale, c'est tout ce qu'espère Sandra. Elle voulait absolument que ses deux fils soient vaccinés. C'est nous qui avons pris la décision, mais ils voulaient le faire aussi. Tous leurs amis vont le recevoir. Dans presque toutes les familles que je connais à New York, les enfants vont être vaccinés. Notre philosophie, c'est que plus vite tout le monde le sera, plus vite les enfants iront à l'école ou en colonie. Et le défi pour l'administration Biden, c'est de convaincre les réticents. D'après une étude publiée en avril, près de 20% des familles américaines ne souhaitent pas faire vacciner leurs enfants.
Aux États-Unis, toujours, c'est un pan de l'histoire qui est désormais sorti de l'ombre. Joe Biden est devenu hier le premier président américain à commémorer le massacre de Tulsa dans le centre des États-Unis.
Il y a 100 ans, dans cette ville de l'Oklahoma, un quartier prospère, surnommé le Wall Street Noir, faisait l'objet d'une descente d'habitants blancs, pillages, incendies et près de 300 Afro-Américains tués. Désormais, votre sort sera connu de tous, a dit Joe Biden, devant trois survivants centenaires.
Ce n'était pas une émeute, c'était un massacre trop longtemps oublié par notre histoire. Nous ne pouvons pas nous contenter d'apprendre ce que l'on veut savoir, mais ce que l'on doit savoir. Nous devons connaître le positif, le négatif, tout. C'est ce que font les grandes nations. Elles arrivent à accepter le côté obscur. Je viens ici pour rompre le silence.
Joe Biden, hier à Tulsa, dans l'Oklahoma.
Enfin, c'est l'événement ce soir, hein, à 13 jours du premier match de l'Euro contre l'Allemagne. L'équipe de France de foot entame sa préparation. Match amical ce soir contre le Pays de Galles.
Oui, ce sera à Nice à partir de 21h05. L'Alliance Riviera où Karim Benzema avait disputé son dernier match en bleu. C'était en 2015. L'attaquant y fera donc son retour ce soir, Cyril de la Morinerie.
Oui, 2064 jours exactement après un doublé inscrit contre l'Arménie. Revoilà Benzema, tout sourire au stade de Nice. L'attaquant a de nouveau montré sa complicité avec ses coéquipiers lors de l'entraînement et il devrait, sauf surprise, débuter le match avec son maillot numéro 19. Karim Benzema assurait d'ailleurs dès dimanche en conférence de presse qu'il était opérationnel.
Je suis prêt, mentalement je suis bien, physiquement je suis bien, donc je pense que ça va bien aller sur le terrain et vu l'équipe qu'il y a, je me fais pas de soucis.
Mais attention, l'équipe ne devra pas tourner uniquement autour de l'attaquant star aux 81 sélections et 27 buts, rappelle le sélectionneur Didier Deschamps.
Et il est censé, lui, comme tous les joueurs offensifs, à un moment être capable de pouvoir faire la différence. Mais il dépend des autres, et les autres ont besoin de lui aussi.
Et preuve que le retour de Benzema ne laisse pas indifférent, une bonne vingtaine de supporters sont venus au stade hier soir en espérant apercevoir le revenant.
Karim Benzema, c'est le meilleur numéro 9 de l'histoire du football. Il est trop fort, trop technique.
Karim, 3 buts, triplé.
Tous les matchs, Karim Benzema va marquer, je l'annonce.
En tout cas, Karim Benzema devrait être titulaire ce soir, associé à Kylian Mbappé. Mbappé et Antoine Griezmann, un trio qui devrait faire des étincelles.
Voilà, on l'espère que ce trio fera des étincelles. Ce France-Pays de Galles, à partir de 21h05, ce sera à suivre en intégralité sur Europe 1, en direct, émission spéciale dès 20h.
Et ne manquez pas à 6h15 mon invité inattendu, qui est un ancien bleu, un champion du monde avec nous ce matin dans le 5-7. Je vous en dis pas plus, il sera avec nous à 6h15. Merci Marion Calais, c'était le journal, il est 5h37 et on va retrouver Thierry Léger pour les pronostics du Quintet.
C'est sur l'hippodrome de Saint-Cloud que se disputera ce Quintet, un handicap réservé exclusivement à la gente féminine. Et parmi les 16 partantes, je n'ai pas hésité à faire confiance à Angelissima, le numéro 10, Tara, le numéro 9 et Leila, le numéro 16, classés respectivement 3e, 4e et 5e d'un Quintet similaire le 12 mai à Compiègne et qui n'ont qu'à répéter la valeur réalisée ce jour-là pour conclure une nouvelle fois dans les 5 premières. On leur opposera les numéros 14, Mystical Land, idéalement placé pour sa première tentative à ce niveau, 8, Gladys Senora, jamais plus loin que 5e lors de ses 9 dernières sorties, et 1, Episodia, tenace et pas incapable ici de conserver une place comme elle a su le faire en dernier lieu à Longchamp. Enfin, les numéros 3, Rolleville, et 15, Vivi Bonnebouille, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 10, 9, 16, 14, 8, As, 3 et 15.
Merci Thierry Léger et on retrouve bien sûr tous vos pronostics sur europe1.fr.
Europe 1.
5h38, on s'arrête ce matin sur la filière bois avec le premier invité du 5-7. Bonjour Hervé Le Boulair.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes forestier et vous êtes consultant dans ce domaine de la forêt. Le secteur du bois qui connaît une pénurie, une flambée des prix sous l'effet de la demande de la construction. On en parle dans un tout petit instant. A tout de suite sur Europe 1.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
6h20, on écoute Le Monde changer et on s'intéresse à la filière bois ce matin avec mon invité Hervé Le Boulair. Vous êtes donc forestier, expert de ce domaine de la forêt. Je le disais, pénurie, flambée des prix du bois. Qu'est-ce qui explique cette situation ?
Alors, c'est une pénurie qui concerne l'ensemble du commerce mondial et qui concerne en particulier l'ensemble des activités qui relèvent du secteur de la construction. C'est apparemment une difficulté, si j'ai bien compris, qui est liée à la façon dont se comportent les États-Unis sur le marché mondial, très perturbé par la pandémie et avec une reprise qui semble être extrêmement vigoureuse, ce qui fait que les Américains sont en Europe et achètent à peu près tout ce qui est à vendre.
Une demande qui est mondiale, une demande qui est forte en France, on le voit par exemple avec la construction des maisons en bois. En 2020, une maison sur 10 a été construite en bois. Le bois est en train de devenir le matériau de construction très demandé, le matériau écolo à la mode, c'est un peu ça ?
C'est un très très long mouvement qui a été engagé il y a des années. Le bois, c'est du carbone qui est fixé de façon longue. C'est un matériau renouvelable qui vient de ressources françaises et qui permet d'avoir des bâtiments qui présentent de grandes qualités de qualité de vie. Donc on ne peut que se satisfaire de l'augmentation de l'usage du bois dans la construction et en même temps, on ne peut que constater que ça ne se passe pas de façon fluide et simple. Les arbres ne sortent pas toutes seules des forêts françaises pour aller s'installer dans les maisons en construction.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la filière française, face à cette demande qui explose, n'arrive pas à suivre aujourd'hui ?
Clairement, elle n'arrive pas à suivre. Ça veut dire aussi que on a un marché qui est devenu extrêmement mondialisé et que la filière ne suit pas. Alors non pas parce qu'il manque du bois dans les forêts françaises, on n'exploite que 60% de l'accroissement, mais il y a clairement un décalage entre la ressource française et les façons dont on utilise aujourd'hui le bois dans les constructions.
Mais c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'on ne devrait pas manquer de bois en France. Hein. La forêt recouvre 30% du territoire, 4e forêt d'Europe. Qu'est-ce qui cloche alors ?
Si je le savais, on aurait certainement bien fait avancer le Schmilblick, puisque je crois que ça fait une bonne quarantaine d'années que tous les ans, un ou deux rapports de gens très compétents essayent de savoir pourquoi ça cloche. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe mal entre l'arbre qui est dans la forêt et la planche qu'on utilise dans la maison.
Donc tout le problème est de savoir où ça coince, et c'est là que ça commence à coincer et que chacun a son point de vue.
Quelles sont les essences, les arbres les plus demandés aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on cherche essentiellement des bois résineux qui ont l'avantage d'être beaucoup plus légers, d'être beaucoup plus faciles à mettre en œuvre et d'être moins chers en prix de revient que les bois feuillus, alors que traditionnellement autrefois les maisons étaient construites en chêne comme la grande maison parisienne, la Notre-Dame de Paris, où toute la charpente était faite en chêne et pas en sapin.
Vous dites que la demande augmente, elle augmente chez nos voisins, elle augmente aux États-Unis, c'est une demande mondiale, ça veut dire que dans ce marché, la France aujourd'hui n'est pas suffisamment compétitive ?
Est-ce que c'est une question de se placer sur le marché mondial ? Moi, je n'en suis pas persuadé. Je pense que le plus important serait d'utiliser au maximum les ressources de bois français dans la construction en France, avec tous les avantages que l'on a. On estime que entre le moment où un tronc sort d'une forêt et le moment où il est utilisé en construction, on a un facteur 10 ou un facteur 20 de création de valeur, c'est-à-dire d'emploi, c'est-à-dire de richesse, et en particulier dans les territoires. Donc on est très en deçà de ce que l'on pourrait avoir en bois français dans les constructions en France.
Ça veut dire que c'est un secteur d'avenir pour la France et qu'on ne l'exploite pas suffisamment, si on vous écoute.
Je dirais que c'est pas une insuffisance d'exploitation. En tout cas, on n'a pas encore atteint un niveau d'organisation qui permettrait à la fois de satisfaire nos besoins et bien sûr tout en protégeant le fonctionnement des forêts, puisque les forêts sont bien sûr des lieux de production de bois, mais bien autre chose que de la production de bois. Ça protège la nature, ça accueille le public, ça fixe du carbone, ça fixe les sols. Enfin, les fonctionnalités de la forêt sont extrêmement nombreuses.
Mais alors, qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans cette organisation ? Il manque des structures, des scieries ?
Je pense principalement il y a un manque d'organisation et de structuration, et que l'ensemble des acteurs de la filière devraient regarder de façon, je dirais, honnête ou objective la façon dont ça se passe, et puis principalement utiliser les bois qui existent en grande quantité dans les forêts françaises, que sont les bois feuillus. Mais ça, c'est plus facile à dire d'utiliser le bois feuillu que de le faire.
Et la filière bois française, donc face à ces défis de cette demande qui explose, on le comprend. Merci de vos explications, Hervé Le Boulaire. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée.
Merci à vous. Au revoir.
Europe 1.
Il est 6h moins le quart sur Europe 1 et c'est l'heure de mettre en lumière ceux qui font bouger la France, ces initiatives positives que nous valorisons chaque matin. C'est avec vous, Lénaïque Monnier. Où est-ce qu'on va ce matin ?
Deux salles, deux ambiances, Guadeloupe et Lille. On mène un combat commun là-bas, récolter des lunettes pour les donner aux plus démunis.
A tout de suite pour La France Bouge, 5h46.
Europe 1, Sébastien Krebs.
5h47 sur Europe 1. Le gouvernement au chevet des plus grandes entreprises, les groupes fragilisés par la crise, pourront bénéficier d'un fonds de transition de 3 milliards d'euros. Dispositif examiné en Conseil des ministres ce matin. Emmanuel Macron se lance dans un tour de France pour renouer un dialogue direct avec les Français. Déplacement de 2 jours dans le Lot. Le chef de l'État attendu notamment à Saint-Cirq, La Popie et à Cahors. Et puis les anciens ont répondu présent à Roland-Garros. Qualification hier de Gaël Monfils et de Richard Gasquet, Gasquet qui devra affronter Raphaël Nadal au deuxième tour.
Écoutez le monde changer avec Sébastien Krebs sur Europe 1.
La France bouge avec vous, Lénaïque Monnier, et nous allons en Guadeloupe d'abord.
Oui, à Bémao, on a beaucoup parlé d'initiatives solidaires liées à la distribution alimentaire, mais dans le domaine de la santé, il y a eu pas mal de dégâts également, avec des Français par exemple qui ne peuvent plus payer une mutuelle. Or, quand on a des problèmes de vue, la prise en charge par la sécurité sociale, vous le savez, est très très faible. Alors depuis un mois, en Guadeloupe, on récolte et on récolte encore des montures, 1200 déjà sur tout le mois de mai, pour ensuite les redistribuer aux plus démunis. Tous ceux qui portent des lunettes le savent, on a tous des vieilles montures de marque ou non qui traînent un peu partout dans les tiroirs. Ouais. Et une fois collectées, eh bien elles sont recyclées, un petit peu nettoyées et offertes à ceux qui en ont besoin.
C'est plutôt une bonne idée. À Lille aussi, on procède un peu de la même manière. Mais en plus, là, on fait appel à des travailleurs handicapés.
Oui, la société s'appelle Les Lunettes de Zac. Alors, même principe, on collecte les lunettes inutilisées, on les fait reconditionner par des personnes en situation de handicap. Là, pas de distribution gratuite, évidemment, puisqu'il faut rémunérer ses travailleurs. La fondatrice remet à neuf à peu près 1000 paires de lunettes chaque mois. Elle propose en plus des versions adaptées à votre vue. Elles sont revendues à prix réduit ou bien envoyées dans des pays en voie de développement. Vous choisissez sur le site l'état de la monture. Excellent. bon, satisfaisant, et en fonction, le prix se détermine. On peut trouver des lunettes à partir d'une quarantaine d'euros, ce qui est assez faible.
Voilà pour ces collectes solidaires de montures de lunettes, les lunettes de Zach. Hein. Donc ça, c'est
oui,
du côté
ça, c'est
de,
à Lille.
De Lille, et en Guadeloupe, c'est à Baie-Mahault.
Exactement. Il y a des points de collecte un petit peu partout dans les supermarchés. On dépose et ensuite on redistribue.
Bah, très bien, la France bouge avec Lénaïque Monnier sur Europe 1. 6h10. On va regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec vous, Martin Lange.
Oui, et ce matin, Sébastien, je vous parle d'une inégalité. Alors, une inégalité que nous ne subissons pas, vous et moi, à l'inverse de Lénaïque. Chez le coiffeur, on paye souvent beaucoup plus cher lorsqu'on est une femme, hein. Même pour une coupe identique. Ça peut aller du simple au double. Et ça, ça dérange beaucoup Laura Morandi. Hein. C'est une jeune coiffeuse indépendante dans les Hauts-de-Seine. Et au mois de mars, elle a lancé une bouteille à la mer sur son compte Instagram. Elle voulait créer un groupe de discussion pour lutter contre ces tarifs genrés dans les salons. Son appel a été entendu par d'autres coiffeurs, mais aussi par des clientes et des clients, parce que ces tarifs plus élevés ne concernent pas que les femmes. Il y a aussi des hommes qui ont par exemple des maladies du cuir chevelu ou tout simplement des textures de cheveux différentes. Eux aussi paient plus cher. Tout ce beau monde a créé le collectif Coiffure en lutte autour d'une page Instagram que vous pouvez suivre si ce combat vous intéresse.
Et par exemple, une femme qui a les cheveux courts va payer plus cher même qu'un homme qui a les cheveux longs.
Exactement. Exactement.
Alors, qu'est-ce que réclame ce collectif ?
Eh bien, tout simplement l'abandon de ce qu'ils appellent la taxe rose. C'est le fait pour une coupe identique, une femme va payer plus cher qu'un homme, comme vous le disiez à l'instant. Il propose donc une grille de tarifs unique en fonction du temps passé sur la coiffure et de la longueur des cheveux.
C'est logique.
Exactement, c'est déjà comme ça que travaille Laura Morandi avec ses clients. Coiffure en lutte veut aussi s'attaquer aux clichés concernant les maladies du cuir chevelu. Non, ce n'est pas dangereux ou contagieux, et donc ça ne mérite pas un tarif plus élevé. De la pédagogie donc, et pourquoi pas à terme des formations. Hein. Laura Morandi rêve de révolutionner un CAP qui n'a pas bougé depuis 18 ans, selon elle.
Alors, est-ce que c'est très suivi ? Est-ce que c'est suivi d'effet, surtout ?
Alors, le collectif démarre tout juste, hein, mais en lisant les commentaires sous les publications Instagram, ces femmes qui ont souvent des cheveux courts et qui payent plus cher que leur mari pour une coupe similaire, on comprend qu'il y a là un vrai problème de société et surtout un vrai combat contre le sexisme.
Voilà, c'est donc comment s'appelle ce groupe ? Coiffure en lutte.
Coiffure en lutte,
Coiffure
exactement.
En lutte sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Si vous voulez soutenir cette initiative. Donc pour finalement, que chaque coupe soit facturée, non pas en fonction du sexe de la personne qui vient se faire coiffer, mais juste en fonction du travail à faire, ce qui peut paraître assez cohérent. Martin Lange, pour les réseaux sociaux, chaque matin, sur Europe 1. Il est 5h51. Bonjour Fanny Agostini. On va retrouver Fanny Agostini dans une seconde. D'abord, je vous donne quand même le sujet de l'histoire de Christophe Ondelat. Vous avez reconnu le générique d'Ondelat raconte. L'histoire du jour, c'est une enquête après la mort d'un bébé de 4 mois et demi chez sa nourrice. En 2018, l'enquête menée par une capitaine de police d'une brigade territoriale de protection de la famille. Ondelat raconte à 14h sur Europe 1 et dès maintenant en podcast sur europe1.fr.
Europe 1.
Voilà, Fanny Agostini est avec nous. Bonjour Fanny.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Notre planète à suivre, à tout de suite.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
5h53, Fanny Agostini est avec nous pour Notre planète avec des solutions positives chaque matin pour l'environnement. Avec ce matin, Fanny, une grande première dans la lutte contre le plastique dans les océans. Vous nous présentez un outil qui va permettre de prédire, d'anticiper le lieu où les déchets risquent de s'échouer.
L'expérimentation a lieu en ce moment même aux îles Galapagos. Cet archipel classé au patrimoine mondial de l'UNESCO se situe loin de tout dans le Pacifique, à 1000 km des côtes équatoriennes. Mais c'est là où pourtant s'échouent chaque année des tonnes de plastique à cause des courants marins qui les rabattent depuis le continent sud-américain. C'est justement ces courants marins qu'une intelligence artificielle repère pour prédire en amont l'arrivée des déchets sur le littoral des îles Galapagos. C'est ainsi qu'est élaborée une cartographie prémonitoire des déchets qui vont arriver sur les plages dans les semaines à venir, car cette intelligence artificielle peut désormais prévoir le déplacement des déchets puisqu'elle est entraînée à reconnaître les particules de plastique grâce à des capteurs flottants dotés de GPS.
Des capteurs flottants, à quoi vont servir ces radars à déchets ?
À ce jour, seulement un petit pourcent des côtes de l'archipel sont nettoyées, avec en moyenne 8 tonnes de déchets qui sont récupérés chaque année. Des déchets plastiques qui se retrouvent immanquablement dans l'estomac de toute une faune exceptionnelle. Des tortues géantes, des iguanes, des requins. Mais faute de moyens, les autorités ne peuvent pas massivement ramasser et elles misent donc sur une appréhension des échouages en amont avant qu'ils n'atteignent les côtes. Voilà pourquoi cette méthode de prévision d'échouage des déchets va permettre de déployer des moyens plus ciblés et donc plus efficace de nettoyage des endroits les plus pollués.
L'utilisation, Fanny, de cette intelligence artificielle pourrait nous permettre de nettoyer les océans en entier ?
Eh bien, elle nous permettra certainement d'affiner notre compréhension et notre anticipation des mécanismes océaniques et de concentration du plastique. Un outil précieux qui va sûrement à l'avenir nous permettre de suivre les nappes de déchets flottants comme des particules de plastique invisibles à l'œil nu et ainsi ciblées, nous pourrons mieux les attraper. Mais cette intelligence artificielle n'est certainement pas la clé de tout puisque la problématique des déchets, on le sait, est surtout une affaire de comportement à changer.
Merci à vous, Fanny Agostini, des initiatives, des solutions pour l'environnement. Chaque matin, c'est notre planète. Il est 6h05. Bienvenue à tous, vous êtes sur Europe 1, bienvenue. Il est presque 6h du matin, je suis ravi de vous accompagner au réveil chaque matin. Nous sommes le mercredi 2 juin, c'est le top départ pour les Bleus ce soir. Premier match de préparation en vue de l'Euro. L'Euro qui débutera dans une dizaine de jours. Ce soir, c'est contre le Pays de Galles. À suivre en direct sur Europe 1 avec le retour en bleu de Benzema. On en parlera avec mon invité inattendu. Ne le manquez pas dans un petit quart d'heure. Maintenant, c'est un ancien champion du monde qui est avec nous dans le 5-7 ce matin. Et puis, on va s'arrêter à 6h40 tout à l'heure sur un effet de la crise sanitaire dont on a finalement très peu parlé. On évoque souvent l'impact sur la santé mentale des plus fragiles. Eh bien, les troubles alimentaires ont nettement augmenté sur l'année écoulée sous l'effet des confinements. Écoutez cette étudiante de 19 ans.
Quand on s'ennuie, quand on essaye de suivre nos cours en ligne, bah, on grignote un truc à côté. En fait, c'était ça non-stop, quoi. C'était encore plus de stress, donc encore plus besoin de pallier un mal-être avec la nourriture.
La boulimie, l'anorexie, ces troubles concernent près d'1 million de personnes en France et souvent, ces personnes ne sont pas soignées. À 6h40, le regard de la pédopsychiatre Nathalie Godard, elle préside la Fédération française anorexie boulimie. D'ici 7h, tous vos rendez-vous habituels et toujours un peu de musique pour respirer chaque matin.
Autumn in New York, why does it seem so inviting? Autumn in New York, it spells the thrill of first nighting.
La voix de Billie Holiday, dont tout un pan de l'histoire est raconté au cinéma dans un film qui sort aujourd'hui. Billie Holiday, une affaire d'État, ou comment la chanteuse a été traquée, piégée jusque dans son lit de mort par les autorités américaines. On vous racontera cette histoire en musique, bien sûr, dans la partition d'Omblin Roche tout à l'heure à 6h20 sur Europe 1. Laurent Cabrol, où en est-on de ces chaleurs? Est-ce qu'elles vont encore continuer aujourd'hui?
Ben la chaleur, c'est pas trop mal, hein, puisque nous aurons 28 à Paris, qui sera la ville la plus chaude, oui, ville la plus chaude aussi, Lille et Strasbourg, 28 degrés, 27 à Nancy et à Sedan, nous aurons 26 à Dijon cet après-midi, 25 à Toulouse, Lyon, Bordeaux, Poitiers, 24 à Marseille, 23 à Limoges, 22 à Valence et 20 degrés du côté de Quimper. Bon, vous voyez, ce sont des bonnes températures. Maintenant, lorsqu'on regarde la couleur du ciel, là, je dois dire que quand on a notre activité, faire la météo, c'est-à-dire les résumer en 30 secondes, c'est un vrai casse-tête parce qu'il y a un peu tous les types de temps. Alors si vous êtes près de la Méditerranée, toutes les régions qui bordent la Méditerranée, toutes les régions qui bordent l'Atlantique, dites-vous que ce matin, c'est pas terrible, mais cet après-midi, ça sera beaucoup mieux avec des éclaircies. Si vous êtes dans le Cotentin, la vallée de la Loire, le Limousin et la Dordogne, vous êtes dans des régions où les orages auront lieu peu ou prou tout au long de la journée, mais très espacés. Et puis cette zone orageuse va gagner l'après-midi, la Normandie, la Picardie, la région parisienne, Champagne, Ardennes, Lorraine, Centre-Auvergne, dans toutes ces contrées, prévoyez donc un après-midi plutôt agité. Voilà, les températures ce matin, entre 14 et 18 degrés. Et puis,
ça va durer ou on va retrouver le soleil quand même?
Alors, le soleil, ça sera un petit peu plus dur. Demain, jeudi, nous aurons pratiquement le même type de temps, avec toujours des orages qui progressent, qui s'en vont, qui reviennent. C'est un peu la valse orageuse. Et puis vendredi, bah, il y a encore des orages sur la partie centrale de la France. Les régions les plus gâtées vendredi seront les régions proches du littoral et les régions du sud-est. Voilà. Et tout à l'heure, je vous raconterai le week-end prochain, qui est moins agréable puisque les températures commenceront un peu à baisser. Mais bon, on en reparlera.
On en reparle. À tout à l'heure. Merci Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.